De retour dans ce mag à propos d'une rencontre avec un auteur qui nous est proposé ce jeudi du côté de la librairie Le Tracteur de Savant de Saint-Antonin, Noblevel, c'est à partir de 18h30. Une rencontre avec Benoît Philippon qui est avec nous en filaire dans nos oreilles. Bonjour Benoît.
Bonjour Lisa.
Vous venez de sortir Petiote aux éditions Les Arènes. Vous aviez précédemment écrit Cabossé, Mamie Luger, best-seller, joueuse, le tout depuis 2016, ce qui nous fait un livre environ un tous les deux ans. Vous êtes réveillée à 40 ans, vous avez dit tiens, si j'écrivais des bouquins, ça valait de me contredire.
C'est une façon de poser les choses. Alors je me suis pas réveillé à 40 ans, je me suis réveillé bien plus tôt que ça. Moi j'écris, mon métier c'est l'écriture depuis toujours en fait. Moi je suis scénariste de cinéma. Et donc j'écris pour le cinéma depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et je suis aussi réalisateur pour le cinéma toujours, film d'animation, série d'animation, bande dessinée. Donc en fait, je me suis à un moment effectivement, une quarantaine d'années, je me suis dit pourquoi pas la littérature. Donc c'est une façon de à la fois poursuivre et digresser par rapport au médium que je connaissais qui était l'écriture, mais une écriture exclusivement littéraire et non plus cinématographique sur ce support-là, mais je continue à développer du scénario en parallèle.
Vous écrivez des histoires dans la grande histoire, si on prend l'histoire de Mamie Luger, par exemple, Mamie Luger, donc centenaire et les cadavres de sa cave, mais c'est pas de sa faute, Mamie Luger, c'est pas elle qui veut tuer des gens, c'est comme ça que ça se fait, il faut bien se défendre. Là, on est avec Gus, un père au bout du rouleau qui veut récupérer la garde de sa fille, alors pour la récupérer, il va pas devant un avocat, non, il prend un hôtel en otage. Vous utilisez les JT, les faits divers pour inspirer vos personnages haut en couleur?
Alors, je n'utilise pas particulièrement les JT, j'utilise la fable, en fait. C'est des fables modernes et urbaines, souvent. Mais effectivement, j'ai tendance à grossir le trait d'une situation pour essayer de tendre vers quelque chose d'assez symbolique et pour aller vers un portrait de personnages et de combats et d'enjeux qui soit assez universel. Donc c'est assez paradoxal quand on dit j'ai écrit l'histoire d'une grand-mère de 102 ans qui est serial killeuse et je voulais tendre vers quelque chose d'universel. Et en fait, c'est un peu ce qui est arrivé, parce que c'est devenu un best-seller, c'est quand je raconte l'histoire de Berthe à 102 ans qui a 7 cadavres dans sa cave, ben je parle de la violence faite aux femmes à travers le siècle. Et donc c'est la version affabulée de la situation d'une femme qui, à un moment, ben, pour se défendre de cette violence qui lui est faite, se défend avec les mêmes armes ou par accident est obligée de donner un petit coup de pelle sur la tronche à un mari un peu trop violent. Et à travers cette situation qui paraît un peu énorme, je reviens vers quelque chose de très sincère par rapport à ce personnage et cette violence qui lui a été faite et pourquoi elle a dû s'en défendre de la même façon. Gus, je voulais effectivement raconter cette histoire d'un père qui essaie de reconstruire son lien filial avec sa fille parce qu'il a raté sa paternité. Et au lieu de dire bah, ça va se passer devant les portes du lycée, bah, ça se passe pendant une prise d'otage. Et c'est une façon d'exacerber un peu l'émotion et la situation pour rentrer dans les codes dits du divertissement et de la fable.
Alors la fable représentée encore une fois avec cette galerie de personnages assez universelle. Donc on a ce père un peu loser, hein, sa fille, ado rebelle de 14 ans, et puis les otages. Alors... Georges, le tenancier, Boudu, un SDF, sauvé des eaux, Fatou, une migrante enceinte, Gwen et Dany, un couple illégitime qui a enregistré incognito, Hubert, un livreur Hubert jamaïcain, mais aussi Sergueï, un marchand d'armes, et puis la capitaine de police, la négociatrice de cette cellule de crise, Mia Balzerzak.
Ouais,
désolée de faire mal à son nom, mais bon, elle n'existe pas vraiment. Ce sont des personnages, encore une fois, que vous avez cherchés, qui sont... Qui peuvent exister, hein. Tout est possible là, encore dans Petiote.
Oui, c'est ça, tout est possible. C'est-à-dire que c'est le même principe que la fable, c'est-à-dire que ça prend vraiment l'inspiration dans la réalité, mais une fois de plus, ça grossit un tout petit peu le trait. C'est-à-dire que l'idée, quand j'ai cette idée de cette histoire de Gus, c'est ce père qui a perdu la garde de sa fille parce qu'effectivement, il n'a pas été un père responsable, il n'a pas payé sa pension alimentaire, il n'a pas d'argent, il vit dans un hôtel de passe. Bon, il y a un moment, il peut effectivement plus avoir la garde de sa fille. Et pour réparer ses erreurs, il en commet une un peu plus importante encore que les autres, c'est de prendre l'hôtel dans lequel il est en otage, sa fille avec. Je me suis dit, d'accord, une fois que ça s'est fait, je voulais pas que les otages soient des figurants. Donc je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il embringue dans son histoire des personnes qui n'ont rien demandé, qui étaient dans cet hôtel à ce moment-là. Et chacun va avoir sa vie, son destin, qui va être bousculé par cette prise de décision qui est extérieure à eux. Et donc, il était intéressant pour moi et pour l'histoire de dire chacun de ces personnages doit avoir une courbe personnelle forte et un ancrage sociétal fort et différent. Donc je me suis dit, quel genre de personne vit dans un hôtel de passe? Il va y avoir une prostituée, probablement un SDF, probablement un sans-papier, donc en l'occurrence une migrante, couple illégitime. Et à partir de ce moment-là, je me dis, chacune de ces personnes-là, si elle est dans cet hôtel-là, c'est soit elle n'a pas eu le choix, soit elle se cache de quelque chose, donc elle n'a pas forcément envie qu'il y ait les flics et la presse qui soient aux portes de l'hôtel. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça crée une situation vachement intéressante d'un point de vue tension, c'est assez explosif, et d'un point de vue humain et sociétal, parce que ça me permet de raconter l'histoire d'un SDF, l'histoire d'une migrante, l'histoire d'un livreur Uber, et d'essayer de comprendre un peu mieux le parcours à la fois de ces personnages et de ces personnes ancrées dans cette société qui est la nôtre.
Une histoire universelle, des galeries de personnages assez ou en couleur, et puis vous avez une écriture particulière aussi, Benoît Philippon. Alors on voit bien le côté justement scénariste et réalisateur, une écriture assez visuelle, très surprenante, étonnante. Vous êtes à chaque tournure de phrase, on a un petit mouvement de recul et un petit éclat de rire qui peut sortir malgré des histoires assez noires, justement.
Écoutez, merci.
Ouais, non, en fait, il n'y avait pas de question. Mais oui, c'est une question. Comment vous écrivez ?
Oui. L'idée, c'est qu'effectivement, quand je me suis réveillé, comme vous dites, j'ai commencé à écrire un roman, je me suis dit, moi j'ai l'habitude d'écrire pour le cinéma, donc j'ai l'habitude d'écrire en images des situations qui soient visuelles. Aussi bien que effectivement émotionnel, mais visuel. Et je voulais pas perdre ça. Je voulais qu'on lise mes romans comme on voit un film, mais je voulais pas que ça ressemble à des scénarios. Je voulais que ça ait une vraie couleur littéraire. Donc en fait, je fais un peu un mélange de ça, c'est-à-dire que c'est une écriture entre guillemets scénaristique qui fonctionne sur une rythmique, sur des cliffhangers, sur une méthodologie entre guillemets scénaristique. Mais je voulais vraiment faire en sorte, ça c'était mon leitmotiv, de remplacer la caméra par le stylo. Donc, comme on a une caméra, on essaye de faire des beaux plans, on essaye d'avoir des beaux cadres, on essaye d'avoir une belle direction artistique. Je veux avoir la même chose avec les mots. Donc je veux que les phrases aient une certaine sonorité, une certaine métrique, un certain flow. Et dans les dialogues, c'est pareil, que chaque personnage ait une couleur particulière sur les dialogues. Et effectivement, on dit souvent que ça crée de l'humour, mais c'est parce que je joue avec des ingrédients qui ont des réactions chimiques, qui amplifient les effets des trois éléments que j'utilise le plus, qui sont effectivement l'humour, le noir, donc ça peut être le noir au sens thriller ou au sens dénonciation sociétale, violence, et le côté humain et émotion. Et à partir du moment où on joue avec ces trois ingrédients en les poussant chacun, dès qu'on les télescope un peu l'un avec l'autre, ça crée cette réaction aussi un peu forte. Par exemple, si je vais très loin dans une tension noire, et si derrière j'ai un dialogue qui joue en choc avec cette situation-là, ça crée une dépressurisation de tension quelque part, mais qui provoque encore plus le rire. Après, c'est un équilibre avec tout ça pour pas décrédibiliser ce qu'on est en train de dénoncer. Mmh. Mais ça me permet aussi d'aller assez loin dans ce que je veux dénoncer, parce que derrière, grâce à l'humour, je vais un peu calmer le jeu pour que mon lecteur ou ma lectrice se sente pas oppressé. Et ainsi de suite. Donc, mais c'est vrai que la carte de l'humour, en tout cas du décalage plus que de l'humour, j'aime bien que mes personnages aient un certain second degré et une sorte d'impertinence par rapport à la réalité permet une fois de plus de prendre un peu de recul et d'être un peu plus incisif justement sur ce qu'elle peut avoir de dur. Donc c'est aussi c'est un peu les ingrédients du cynisme et du sarcasme qui, quand ils sont utilisés, là c'est le facteur humain, quand ils sont utilisés justement avec du cœur et pas juste de la malveillance ou du je me complais pas dans le noir, en fait je pense qu'il y a un équilibre, en tout cas moi qui me plaît, de dénoncer, d'être incisif, mais en restant en mettant une touche de lumière là-dedans qui provoque soit le sourire, soit le rire.
Le cynisme, le sarcasme, le cœur et la lumière, donc de Benoît Philippon, ce jeudi au Tracteur Savin, la librairie de Saint-Antonin-Nobleval. Rencontre avec vous donc à partir de 18h30. Question, comment allez-vous vous habiller?
je vais pas m'habiller, parce que je crois qu'il y a effectivement une thématique. Il y a une thématique qui est liée à Berthe, 102 ans, dans sa chemière auvergnate. Donc non, moi je pense que je vais être habillé assez normalement, mais par contre je pense que le public, ça va être assez assez rigolo et assez en couleur. Je suis très impatient de voir l'imagination que vont avoir les différentes personnes qui vont être invitées.
Il faut s'habiller en mamie Luger, justement. Revêtez votre plus beau costume de petite vieille pour venir à cette rencontre et pour gagner un des petits donc qui sera bien sûr disponible à la vente suite à la rencontre avec vous-même, Benoît Philippon. Si vous revêtiez un costume de grand-mère, ce serait dommage que vous gagniez le tirage au sort.
Et oui, parce que moi je l'ai déjà lu, mon livre. Ah,
j'imagine. Benoît Philippon, donc ce jeudi à 18h30 à la librairie Le Tracteur Savant de Saint-Antonin-Nobleval pour célébrer le dernier né Petiot, encore un chef-d'œuvre roman noir et déjanté. Benoît Philippon, merci beaucoup et à jeudi.
Merci beaucoup, Lisa, puis à jeudi tout le monde à Saint-Antonin.